On va s'entretenir avec notre ami Ray Lalonde, une chronique sport business qui tranquillement reprend, on n'a jamais vraiment cessé, là, mais reprend sa forme, reprend son cadre. Ray qui est avec nous. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Ray, alors, il y a quand même de plus en plus de nouvelles sur la scène sportive. Et clairement, même si on pouvait en douter en toute légitimité, puis bien qu'il reste encore beaucoup de points d'interrogation, tout indique que Gary Bettman, comme les autres circuits professionnels, mais commençons peut-être par la Ligue nationale, parce que c'est celle qui a le plus d'influence ici dans nos vies. On a le Canadien de Montréal. Il semble qu'on va réussir à présenter quelque chose pour attribuer la Coupe Stanley à quelqu'un d'une façon ou d'une autre, quelque part pendant l'été, là.
Oui, Mario, t'as raison. Ça commence à être de plus en plus concret. C'est difficile à expliquer.
Oui.
Moi, j'attribuerais ça, Mario, là, littéralement, à ce que j'ai vu en fin de semaine dans la Bundesliga en Allemagne, avec le début de la saison, pas le début, mais la reprise des courses de NASCAR, que j'ai suivi attentivement dimanche après-midi sur Fox. Tu sais, UFC avait déjà eu 3 soirées. Mm-hmm. On dirait que quand quelqu'un y va le premier, puis ça réussit avec un certain degré là, de positiviste, puis on a réussi à quand même à bien gérer les éléments importants là, dans les mesures qui devaient être prises, puis la discipline, puis la rigueur qui était nécessaire, ben, je pense que ça donne un souffle nouveau. Puis je suis certain là, que lundi matin, Adam Silver, Roger Goodell, Rob Manfred, Gary Bettman, Don Garber, les 5 grands patrons là, se sont levés en disant « c'est sûr qu'on va y arriver ». Et là, on est sur la bonne voie. Et que ce soit les commentaires de Donald Trump récemment pour encourager le retour au jeu, peut-être un peu trop prématuré, que ce soit l'exemple de ce week-end, tu sais, c'est sûr qu'ils veulent reprendre. Il n'y a pas personne qui veut abandonner. Mais là, ils ont des signes concrets qu'il y a possibilité de s'exécuter puis que ça peut donner un spectacle de bon niveau pour la télé. Tu sais, il y a eu aussi là, le match-up de golf dimanche après-midi. Puis en un, en fin de semaine, c'est dimanche après-midi, Tiger Woods et Peyton Manning contre Tom Brady et Phil Mickelson.
Oui.
Pour le COVID-19. Et on espère remettre jusqu'à 10 millions de dollars pour la cause. Rory McIlroy a tenu son événement, lui, dimanche dernier. Ça a généré 5,5 millions de dollars. Tu sais, alors Mario, ça donne le goût du golf. C'est une autre raison pourquoi on voit la passion aujourd'hui au Québec avec le beau temps. C'est que on voit les pros commencer à s'organiser. La PGA Tour commence le 11 juin prochain. Finalement, il y a énormément de signes qui
oui.
donne l'apparence qu'on va se décider très bientôt.
Je ne sais pas quels ont été les codes d'écoute pour la partie de golf, ce que Rory McIlroy avait organisé en fin de semaine. Je ne sais pas quels seront les codes d'écoute en fin de semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup d'offres sportives. Alors, j'imagine que c'est pas pire, mais on va s'entendre que quand le golf, c'est juste un foursome, un quatre soirs à suivre à télé, waouh, faut que tu sois décidé en tabarouette pour écouter ça au complet.
Sûr,
là.
Ça n'a pas été fort comme
comme produit
audience.
De télé, c'est ordinaire. Là.
Mais la Bundesliga, Mario, en Allemagne, c'est pas négligeable de 100 millions de personnes qui vivent en Allemagne, là, les meilleurs codes d'écoute de l'histoire. Alors, ça a été fulgurant. Puis, on se rappelle le repêchage de la NFL à la fin du mois d'avril. Et on regarde aussi les résultats, je t'en parle plus tard, là, du documentaire The Last Dance. Chaque fois qu'on présente quelque chose de plus récent, frais, que ce soit de la compétition active et réelle ou que ce soit de la nouvelle programmation, les gens sont à l'écoute. Alors, pas étonné de voir les résultats au golf au Québec aujourd'hui non plus.
Et par rapport à la Bundesliga et les codes d'écoute, c'est sûr et certain, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là, les dirigeants de circuits professionnels ici en Amérique du Nord regardent les codes d'écoute de ça et disent « Hey, c'est sûr que il faut, on y voit là tout à coup une opportunité. »
Une opportunité,
en tout cas.
C'est ça. Ouais. Une opportunité, Mario, de légitimiser un retour. De pouvoir aussi se positionner correctement dans l'image de la société puis de la communauté, c'est-à-dire que le sport est important, puis on y va pas seulement pour l'argent puis le côté mercantile, mais on y va aussi parce que c'est un besoin. Les gens ont soif de consommation sportive puis de compétition puis de se changer les idées aussi. Alors, c'est très positif tout ça et je m'attends graduellement, un par un, à ce qu'ils déclarent un plan de relance et aussi une date de...
As-tu quelque chose de concret par rapport à ça? As-tu des dates en tête des villes? Je sais qu'Edmonton travaille fort pour attirer la Ligue nationale là. Je ne sais pas si on va vouloir aller au nord de la frontière du côté de M. Bettman.
Oui, bien du côté de la NBA, là, Adam Silver va se décider d'ici au 1er juin. Et puis, ce n'est pas une décision, je pense, qui est compliquée. Je pense qu'il va simplement remettre et déposer chez les gouverneurs le plan de relance avec les détails. Tu sais, dans chacune des ligues ou organisations, la PGA avait un plan de relance de 60 pages. Tu sais, c'est très sophistiqué, c'est très complexe, c'est très rigoureux, puis ça va demander des ajustements majeurs. Bon, alors la NBA, ce qu'ils prétendent faire, là, c'est qu'on semble de plus en plus favoriser Walt Disney World à Orlando pour un seul site pour terminer la saison. Et on veut finir la saison des matchs qui restent, plus entreprendre des séries éliminatoires. Pour le hockey, il y a encore 8 ou 9 villes qui sont candidates. T'sais, j'entendais les commentaires du premier ministre de l'Alberta qui disait que l'Alberta était bien placé. C'était peut-être un des endroits où c'était le plus sécuritaire en Amérique du Nord. Alors, c'est vrai, parce que quand tu regardes le nombre de cas à Edmonton, Mario, il y a 518 cas à Edmonton, puis 4600 à Calgary. Honnêtement, la province au complet, 6700 cas. On peut dire que c'est très raisonnable et qui ferait en sorte que Edmonton pourrait peut-être être une ville pour accueillir des équipes. Le nombre d'équipes, ça reste à déterminer. Ça va aller dans le plan de relance de Gary Bettman. T'sais, parmi les choses qu'il faut considérer dans tout ça, Mario, c'est la décontamination. C'est le coût de ces tests-là à chaque jour, les résultats qui doivent sortir rapidement. C'est le nombre de tests. C'est le nettoyage puis toute cette désinfection-là qui doit avoir lieu dans chacun des environnements sportifs. Parce que ce n'est pas juste le vestiaire des joueurs, c'est tout ce qui entoure le centre, l'amphithéâtre et aussi les chambres d'hôtel. Et aussi la restauration, puis tout ce qui va être dans la bulle où les athlètes et les services essentiels vont vivre pendant ce temps-là.
La quarantaine, est-ce qu'on va exiger, par exemple, là, les joueurs vont venir de Suède, de République tchèque, d'un peu partout. Est-ce qu'ils se placent en quarantaine en revenant? Et là, après ça, on les déménage dans un lieu de compétition. Est-ce qu'ils vivent une autre quarantaine? On va manquer de date dans le calendrier. Je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Je sais qu'ils vont le faire, mais je suis intrigué.
Tu as raison de dire qu'on manque de date, mais moi, ce que je pense qu'ils vont proposer, c'est que la quarantaine ait lieu à même le regroupement des joueurs. Donc, autrement dit, on sera en quarantaine, mais on poursuit nos activités quand même. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils seraient isolés du reste, il n'y aurait pas de grand public, il n'y aurait pas de visiteurs, tu aurais les gens qui sont déterminés comme étant essentiels à l'opération de match et l'opération et le bien-être des équipes, et tout ce qui accompagne, évidemment, là, je parle de services hôteliers, l'alimentation, la restauration, bon, OK, mais ces gens-là seraient tous dans cette même espèce de bulle, si on veut. Et ça va être intriguant de voir, parce que, tu sais, les coûts de nettoyage, là, selon certaines sources, ça peut dépasser 20 à 25 000 $ par semaine, par équipe, éventuellement pour un retour. Fait que,
un même lieu, Ray? Ou...
Non, dans un lieu, ça va être plus cher que ça, mais ça va être dans un seul lieu. Mais je parle du retour éventuel d'équipe pour des nouvelles normes à l'avenir.
OK, exemple, si le Canadien se remet à jouer au Centre Bell, là tu regardes plus loin que ce qu'ils vont faire cet été. Là, tu regardes l'automne, en tout cas, je ne sais pas quand, là, mais la saison 21-22.
Oui, parce qu'il va falloir 21, pardon. Cette nouvelle normalité-là va exiger des nouvelles circonstances, puis une nouvelle rigueur, puis des nouvelles normes qui vont devoir être suivies, puis ça va imposer aux équipes une certaine pression financière. Mais on va l'avoir, cette pression financière-là, si on essaie de rassembler 15 ou 30 ou 24 équipes dans le hockey, là, dans un seul endroit, là, et le nombre de milliers de tests qui vont être nécessaires dans l'espace de quelques semaines, ça va être impressionnant. Et il y a un coût à ça.
Mais ça a l'air que c'est pas assez pour décourager quand même les dirigeants d'aller de l'avant.
Non, parce que l'enjeu de l'autre côté de la médaille, Mario, c'est si tu peux reprendre tes activités, tu vas réussir quand même à générer des dollars qui étaient dus, mais qui vont devoir être payés maintenant pour les droits de diffusion puis certains commanditaires nationaux. C'est sûr que tu n'auras pas de vente de billets. Tu vas avoir perdu une somme importante. Ça peut être jusqu'à 500 millions à 1 milliard pour le hockey. C'est beaucoup d'argent, mais c'est mieux quand même d'aller jusqu'au bout puis d'avoir des séries éliminatoires puis avoir une Coupe Stanley. Et je pense que tout le monde le souhaiterait, même si ça aurait lieu jusqu'en août, septembre, facilement, Mario.
Tout n'est pas réglé parce qu'il y a plusieurs questions financières. Là, peu importe les circuits, c'est qui disait que est-ce que c'est dans la NFL ou dans quelle ligue, Ray? Rafraîchis-moi la mémoire là, avec tout ce qu'on a à suivre au quotidien. C'est que chaque match coûterait, en tout cas, serait à perte, là, compte tenu.
Oui, dans le baseball, on parle de baseball, perte de c'est ça, oui, 80... plus de 650 000 $ par match perdu. Donc ils ont un coût à ça, encore une fois à ça. Donc ça va équivaloir à des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour opérer, tu vois, parce qu'il y a des conditions énormes et ça va être un enjeu financier important pour le baseball. Mais je reviens au football parce que t'as mentionné la NFL.
Oui.
Eux, leur centre d'entraînement commence à ouvrir. Alors graduellement, on a vu des scènes de Tom Brady qui s'entraînait avec certains de ses coéquipiers dans une école secondaire à Tampa. Pour la prochaine saison des Buccaneers. Mais la NFL commence à reprendre ses activités graduellement. Elle n'est pas en retard vis-à-vis les autres ligues, mais elle avance sur beaucoup de dossiers, Mario. Puis un des dossiers que je veux te parler, c'est ce qu'on appelle le Rooney Rule. Puis le Rooney Rule, ça, c'est l'obligation depuis 2003 que les équipes de la NFL doivent avoir des entrevues en bonne et due forme avec des minorités pour les postes d'entraîneur-chef. Et cette semaine, on a annoncé qu'on va doubler l'attente. C'est qu'on doit avoir au moins deux candidats interviewés pour un poste d'entraîneur-chef et d'autres candidats minoritaires pour des postes de direction dans divers départements, et aussi des femmes, Mario. Alors, la NFL commence à mettre beaucoup plus d'emphase sur la diversification au niveau de son personnel dirigeant d'équipe. Et c'est de bon augure parce qu'on a besoin de travailler plus fort. Il manque de minorités dans des postes d'importance dans la NFL.
Mais ça veut dire que s'ils n'obligent pas, ça n'aura pas lieu.
S'ils n'obligent pas, ils vont se faire pénaliser. Et ils ont même parlé d'incitatifs si jamais des équipes embauchaient des minorités dans des postes importants, on pourrait, ce n'est pas confirmé, ce n'est pas approuvé encore par les gouverneurs, mais on pourrait les récompenser avec des meilleurs choix au repêchage. Alors, ils vont vraiment de façon agressive.
C'est beaucoup, ça. Mais des choix au repêchage, j'imagine, à l'issue des rondes actuelles, donc des choix bonnies à la fin du repêchage, quelque chose comme ça?
Oui, ou des choix supplémentaires dans une ronde, par exemple.
OK, OK. Mais ouais, c'est quand même intéressant. Absolument. Comme politique, là, tu touches vraiment au contenu, à ton produit. Là. Tu dis, hey, si tu agis selon ce qu'on souhaite avoir comme standard maintenant dans cette ligue, comme visage de la NFL, on va t'aider à avoir une meilleure équipe, tu vas repêcher plus que les autres.
Exact. Puis on veut briser un peu le casse-tête, le moule, Mario, qui existe depuis trop longtemps dans la NFL. Tu sais, c'est souvent ça dans le sport. Il y a une certaine fraternité. Puis on continue de recycler les mêmes personnes. Et on ne donne pas souvent la chance à de jeunes, et surtout des jeunes minoritaires, provenant de différents groupes ethniques, et aussi aux femmes. Alors c'est important d'encourager l'opportunité égale pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être fait, mais il faut au moins avoir des entrevues et des entretiens de haut niveau de façon sérieuse pour considérer.
J'espère. J'espère. C'est drôle, ça me fait penser, puis c'était pas une question par rapport basée aux origines ou à la race ou quoi que ce soit, puis je revoyais un film en reprise récemment, Billy Bean. Tu sais, quand t'arrives avec une nouvelle philosophie, tu sais, sur Moneyball.
Oui, Moneyball.
Tu sais, c'est difficile de faire changer les idées, puis d'amener ça, c'est une nouvelle philosophie parce qu'il faut encore des règlements pour les inciter
bien sûr.
Ça veut dire que c'est pas encore naturel, c'est un travail de longue haleine.
Et voilà, tu le dis, c'est pas naturel. On ne réfléchit pas immédiatement comme ça, puis ça, c'est vraiment important. Puis l'autre point concernant la NFL, c'est qu'on étudie avec leur commanditaire principal, Oakley, qui sont les fabricants exclusifs de visières, parce que tu en as parlé hier soir avec la dame de marketing de CCM.
Oui.
Et là, alors, je reviens là-dessus pour te dire que dans la NFL, la probabilité qu'on exige des visières complètes pour tous les joueurs, pour cette saison, existe.
Ah oui?
Ah oui. Alors, c'est-à-dire qu'ils en portent déjà. Plusieurs joueurs portent des visières pour se protéger des blessures aux yeux et ainsi de suite. Puis c'est tout à fait acceptable, même des quarts arrière. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on s'en va vers la direction où tous les joueurs le porteraient cette année. Et là-dessus, je te rappelle encore qu'il y a eu des belles initiatives que CCM et Bauer ont fait au Québec, au Canada, en Amérique, vis-à-vis des productions et de la manufacture, de la fabrication de visières. Et ensuite, ce que CCM a fait au niveau des masques. Et alors, ces choses-là sont vraiment importantes et de plus en plus, on va voir des équipes puis des organisations puis des ligues sportives s'ajuster.
Tu vois qu'il y en a qui allument vite sur les opportunités, les changements à venir, plus vite parfois que certaines façons de en tout cas, c'est une autre affaire. Là,
oui, c'est une question de vision.
À lutter contre la coronavirus, contre la COVID-19. Mais eux autres, ils ont vu ça tout de suite. Dire, hey, ça va prendre des nouveaux équipements parce que déjà, ils ont aidé à l'effort de guerre, entre guillemets, pour fournir des équipements médicaux ici. On sait qu'ils ont mis au point un masque, une cagoule avec un docteur d'ailleurs. Mais là, c'est qu'en arrière-plan, puis c'est ça qui nous a tous étonnés hier, c'est qu'ils ont fait une demande de brevet ces derniers jours pour une nouvelle visière, un nouveau protecteur facial. Et ça, c'est fascinant. Donc, les parents qui sont à l'écoute, vous avez manqué ça hier, bien, il y a des fortes chances que vous soyez contraints d'acheter un nouveau casque de hockey ou à tout le moins un nouveau protecteur facial. Et le défi d'éliminer la buée, une visière complète, Rich, moi, je joue avec une visière, une demi-visière, puis c'est pas tout le temps évident de négocier avec la buée. Fait que pour qu'ils demandent un brevet, c'est qu'ils ont avancé à une vitesse incroyable dans les deux derniers mois pour présenter quelque chose de nouveau.
Oui, puis à la défense de CCM et Bauer, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à une visière complète au hockey que ça l'est au football. Tu sais, le football, tu passes pas ton temps à regarder au sol puis chercher une rondelle. Tu sais, tu regardes devant toi, le joueur devant toi ou même le ballon parfois, mais c'est toujours à la hauteur des yeux. Mais au hockey, c'est difficile de trouver la rondelle toujours, puis c'est pour ça que les joueurs se découragent avec une visière, puis c'est pour ça qu'ils la relèvent déjà. C'est presque une visière pour le front de la tête plutôt que pour les yeux, tellement les joueurs négligent un peu cette protection-là parce qu'ils veulent voir la rondelle. Alors, mais on ne dit pas que dans le hockey, il va y avoir une visière obligatoire pour non, les professionnels.
Non, pas pour les pros, pour les, ouais. pour les joueurs.
Pour l'hockey amateur, par exemple, c'est une probabilité, là aussi, qu'on ait des ajustements ouais. pour protéger les jeunes garçons et filles.
Ben, c'est sûr. Déjà, j'entends qu'on ne permettra pas plus que 6 joueurs par chambre, par vestiaire. On va même changer la nature du sport. En tout cas, je ne sais pas. J'attends encore. On a des informations de coulisses. J'ai pas tout le détail, mais c'est sûr qu'à cause des mesures de distanciation dans l'hockey mineur et dans l'hockey de ligue de garage, je pense que tout le monde va être contraint d'adopter des... En tout cas, de se plier à de nouvelles normes, ouais. de nouvelles directives.
On n'a pas le choix, Mario, de toute façon. C'est
mais je suis
important.
Surpris que la NFL, donc, parce que chez les pros, ça ne semble pas envisagé, selon les échos qu'on en a. Chez les pros, je pense qu'ils se préparent à jouer avec leur équipement habituel, mais que tu me dises que les joueurs de la NFL pourraient jouer avec un protecteur complet, je suis quand même étonné de l'entendre.
Ben, Mario, c'est parce que les consignes, c'est-à-dire le football, évidemment, c'est un sport extrêmement physique. Tu as les mains dans le visage de l'autre joueur, presque. Alors là, tu sais, c'est des sports de contact. Le hockey a autant de contact, c'est même plus... C'est plus violent au hockey à cause de la vitesse des patins. C'est juste que le football, c'est sans précédent, puis c'est constant. Tu es toujours en contact avec un adversaire, puis tes mains peuvent aller parfois dans le visage du joueur adverse. Ça peut être pénalisé, mais à la fin, il faut tenter de limiter ces contacts-là. Mm-hmm. Je pense que la visière, c'est une façon pour eux de prouver qu'ils peuvent reprendre l'action et respecter certaines normes sécuritaires et médicales.
Nous voulions...
Dernier point sur la NFL, Mario, c'est qu'ils ont aussi autorisé un prêt supplémentaire, puis je t'en ai déjà parlé de ce fameux stade-là à Los Angeles, à Inglewood, le SoFi Stadium des Rams, un prêt supplémentaire de 500 millions de dollars pour aider les Rams à compléter la construction de ce plus dispendieux, le stade le plus cher au monde, 5 milliards de dollars US, qui va ouvrir si la saison de la NFL reprend en septembre.
OK, donc, eux autres, il est trop tard pour s'ajuster aux nouvelles normes de distanciation. Là. Les sièges sont aménagés comme d'un stade d'avant-pandémie. Je sais pas s'ils l'auraient fait pareil s'ils avaient su. Là, mais...
Ben, une excellente question, mais c'est certain qu'il n'y aura pas 75 000 personnes dans ce stade-là cet automne. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on va revenir un jour à la normale? On l'espère tous. C'est un gros défi, Mario. On pourra en parler dans une autre chronique. C'est comment que les équipes de sport, tout sport confondu, vont réussir à se financer et à générer les dollars nécessaires si tu es limité à 8, 10 000 personnes en capacité pour un match de hockey. Tu sais, des équipes riches sont peut-être capables de le faire, mais les équipes pauvres ont besoin de vendre leurs billets. Tu le sais comment c'est important, les recettes au guichet pour les équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors imagine si tu as des contraintes, là je parle même pas de la saison actuelle, là. Je parle l'an prochain en 2021, tu reviens au jeu, puis on te fait dire que tu dois avoir, mettons, le tiers de ta capacité, c'est tout ce qui va être permis. C'est une question intéressante à savoir comment vont se financer ces équipes-là.
Quelques secondes en terminant, Ray, à moins qu'on ait oublié quelque chose sur une des ligues professionnelles, sur The Last Dance, dont la diffusion, ben, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a regardé, mais on a pu consommer tous les épisodes. Tous les épisodes ont été rendus disponibles. J'ai fini de la visionner lundi soir. Et je ne sais pas avec quelle impression tu restes. Il y en a qui disent que... Michael Jordan a accepté qu'on voit des choses moins positives à son sujet. On a vu quand même son attitude, son caractère un peu intimidateur, même désagréable avec des jeunes, avec des coéquipiers. Jusqu'à quel point tu penses qu'on a négocié? Trouves-tu qu'on l'a trop bien fait paraître? C'est quand même un gars qui a mené son équipe à 6 conquêtes de championnat. Là, on fait un grand tabac avec les propos d'Horace Grant, un de ses anciens coéquipiers, oui. qui dit, ben dans le fond, ils ont enjolivé ça. Si vous voulez appeler ça un documentaire, c'est votre affaire. Il dit, c'était divertissant, mais pour moi, c'était pas un documentaire. Moi, je trouve que... Pour moi, ça fait pas ombrage à l'ensemble de l'œuvre, mais ton opinion?
Ben, mon opinion, c'est que Michael Jordan, c'est un joueur de basketball professionnel à l'époque, puis il était pas dans. C'était pas une famille, ça. C'est une équipe de sport qui devait gagner, et Jordan a souffert et a fait souffrir les gens autour de lui. Il a gagné, par exemple, et sa performance n'a jamais été affectée, puis lui s'est soumis aux mêmes règles, puis aux mêmes souffrances, si on veut, que ses coéquipiers. Est-ce que c'était le gars le plus indulgent? Pas du tout. Est-ce que le gars. On l'a peint comme étant un homme tout le temps courtois et professionnel. Au contraire, je pense qu'on a vu des faiblesses dans sa personnalité. On a vu des éléments émotifs au cours de la docu-série. On l'a vu vraiment maltraité, donc ça l'a mal fait paraître lui aussi. J'aurais aimé qu'on accorde un peu plus d'attention positive pour Scottie Pippen. Parce qu'à mon avis, là, je le connais Scottie Pippen, je suis allé en voyage en Europe avec lui pour la NBA. C'est un gars, non seulement était-il le meilleur lieutenant numéro 2 de l'histoire de la NBA, c'est un des top 50 de l'histoire, ça a été décidé en 1996. Aujourd'hui, Pippen fait partie peut-être des 20 meilleurs joueurs de l'histoire, puis on ne lui donne pas suffisamment de crédit pour ce qui est arrivé, pour les succès des Bulls.
Il y a même l'air vulnérable par moment, tant mentalement que physiquement.
Absolument. Quelques petites erreurs ici de jugement.
Oui.
Et là, soudainement, il paraît quasiment invisible, puis quasiment comme le gars que Jordan a été obligé de transporter lui-même.
Mais on ne sait pas quelle aurait été la carrière de Pippen s'il avait joué avec un autre, s'il avait été le numéro 2 d'un autre numéro 1. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'avec Jordan, il en a gagné 6, par exemple.
Exact. Mais on ne sait pas ce qu'aurait été la carrière de Jordan sans Pippen non plus.
C'est un excellent point.
Parce que Jordan n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné contre les Pistons avant l'arrivée de Pippen.
C'est vrai. Fait que c'était Alors c'est quand même important.
C'est le documentaire le plus réussi de l'histoire de ESPN. Le documentaire le plus populaire au monde depuis un mois. Ça fait des audiences de 5,6 millions par épisode en moyenne. C'est immense pour un documentaire. Et 50% de l'audience, Mario, était âgée de 18 à 49 ans, ce qui est la cible. Et le 18 à 49 ans représente aussi des jeunes qui n'avaient pas vu jouer Jordan.
En plus,
alors, c'est une renaissance pour Michael Jordan à ce niveau-là.
Oui, il y en a qui le découvrent. C'est fascinant. Merci beaucoup, Ray. Toujours intéressant. On continue de te suivre sur ton compte Twitter, bien sûr, à @RealRayLalonde. Et je te dis à très bientôt, mon ami. Bonne fin de soirée.
Merci, Mario.
Merci, Ray.